pris le parti que je n'avais pas annoncé d'essayer de comprendre un peu, plutôt qu'un ordre disciplinaire et savant, le contexte et des affaires de limitation de la puissance informatique dans les sciences humaines. Parce que, au fond, c'est une vieille histoire. Tu t'en vas ? Bon, non. D'accord. Bon, c'est une vieille histoire. Quand j'étais archéologue, je suis partie en Afghanistan en 69, j'avais 22 ans. Et il y avait là un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Gardin et qui prévoyait l'utilisation de l'informatique dans les sciences humaines en disant on va enfin comprendre les sociétés anciennes. Moralité, il classait des milliards de tessons et après on pouvait redessiner les jarres, les casseroles, les assiettes, les bols, etc., etc. On a pu, à partir de là, au bout de 40 ans, en effet, traiter des nombres de tessons absolument gigantesques et, au fond, faire une carte pour le Proche, le Moyen-Orient, jusqu'à l'Inde du Nord, des formes céramiques. Ça a renseigné sur un certain nombre de choses. Bon, est-ce qu'on comprend vraiment mieux les sociétés anciennes ? Bien, on a acquis des choses, c'est vrai. Mais je suis donc très habituée, comme j'ai 68 ans et que ceci se produisait quand j'en avais 22, au discours de la Révolution, qui m'a au fond beaucoup plu. Mais quand, personnellement, dans mon livre, j'emploie le terme de Révolution, je l'emploie dans son premier terme, à savoir que l'histoire dessine dans notre fleuve sémologique qui prend donc racine en Mésopotamie, en Iran et en Égypte, d'une certaine façon, eh bien, il se renouvelle. Et c'est comme s'il repassait, en fait c'est pas vrai, par des mêmes points. C'est une idée imaginative évidemment, c'est faux historiquement, le temps n'est pas cyclique, bien évidemment. Mais c'est quelque chose de ce genre. Donc plutôt que d'abonder dans le sens d'Éric et de décrire ce qu'a fait brillamment Philippe, je me dis au fond, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la subjectivité. Ce que j'ai fait pendant 20 ans en histoire de l'écriture, c'est l'histoire du sujet dans les signes. Et dans les signes, le sujet implique une relation au langage, disons au langage, à la langue, au langage, et visiblement avec les mathématiques, c'est assez différent de l'écriture des langues. Plus j'écoute Jean d'Ombre, et même il m'arrive de le lire, plus je vois, et c'est encore très net chez Cédric Villani, que vous êtes des gens libres dans les signes. Quand il y a un problème, eh ben on en crée un. Raisonnement qui était celui des Mésopotamiens, tant qu'ils écrivaient en logogramme, et des Égyptiens anciens, et des Chinois modernes et anciens. Qui n'est pas du tout celui des gens qui travaillent avec l'écriture alphabétique dans la langue. Ils sont dans un truc beaucoup plus rigide. Donc il y a donc une origine informatique à la liberté mathématique des signes. Vous êtes des gens libres dans les signes. Ça fait quelque chose d'extrêmement différent pour moi. Hein? Puisque notre registre de signes est étroit pour un alphabet complet. Il est plus vaste pour un syllabaire, mais il n'est pas très grand quand même. Un syllabaire, c'est entre 80 et 150 signes. C'est pas beaucoup, évidemment, qu'un système idéographique, c'est gigantesque. Et vous avez une liberté, vous pouvez les créer. Nous ne pouvons pas les créer en alphabet. Ça nous est interdit. Nous pouvons un peu créer des mots. Hein? Encore en français, non. C'est la langue à parier sur la structure syntaxique au XVIe, XVIIe siècle, et non pas sur la morphologie et sur la dérivation sémantique. Ça, c'est le cas de l'allemand et de l'anglais, pas celui du français. Donc, je comprends un peu mieux la liberté sémiologique informatique à partir de cela. C'est-à-dire qu'il y a une pauvreté alphabétique. Et c'est extrêmement abstrait, évidemment, l'alphabet complet. Une pauvreté alphabétique et une abondance de signes dans l'univers mathématique. Ce qui, en effet, produit quelque chose de tout à fait nouveau et particulier. Je suis incapable de le penser, moi, cette chose-là. Mais au fond, je peux revenir sur le texte que nous a donné Éric. Éric parle d'abord de pensée, et ensuite il décrit des opérations qui sont plutôt celles de la recherche. D'accord ? Les opérations intellectuelles, hein ? La documentation, les méthodes et la collaboration. Et ensuite, comme tu sais, c'est juste pour rentrer dans ta pensée que je fais ça. Ensuite, tu reviens sur la possibilité d'une philosophie numérique. Et cela, c'est pas Eric seulement qui l'écrit, c'est pratiquement comme ça que se présentaient les problèmes. C'est-à-dire que la pensée, c'est quelque chose de général qui concerne tout le monde. On pense selon un certain ordre social dans lequel on vit. On n'est pas indépendant du milieu dans lequel on vit. Et puis, pour essayer d'aller plus en profondeur, on prend les pratiques des chercheurs. Et à la fin, néanmoins, on veut construire une philosophie numérique. C'est-à-dire qu'on réouvre à quelque chose d'autre que le milieu des chercheurs. La philosophie, ce n'est pas la philosophie des chercheurs. Ça ne peut pas l'être. Et dans cette présentation qui est pensée, recherche et de nouveau philosophie, on fait une extraordinaire abstraction du monde social. Or, qu'a fait tout à l'heure Jean Dombre, c'est de dire, bon, le travail de Napier, c'est le milieu protestant, le travail de... Et il contextualise les pratiques de Signe. On ne peut pas faire autrement que contextualiser les pratiques de Signe. Pourquoi ? C'est parce que c'est ça, un signe. Un signe, c'est un truc qui n'a aucun sens, sur lequel les gens sont d'accord pour donner, pour donner un sens. C'est tout. C'est tout. Hein, même quand vous parlez de symboles mathématiques, c'est la même chose. Vous employez le terme de symbole qui, dans l'histoire de l'écriture, est évidemment une autre signification qu'en mathématiques, que dans le langage décrivant l'écriture mathématique. Mais faire l'abstraction du monde social quand on parle de signes, pour moi, c'est c'est une chose impossible, puisqu'il n'y a de signes que conventionnels, c'est-à-dire à propos desquels les gens ou les utilisateurs sont d'accord. Il n'y a rien à faire. Si, Gérard. Avec les signes linguistiques, les signes d'écriture, bon, en effet, il y a quelques pictogrammes, O, note O, le corps parlant, etc. Mais dans l'ensemble, il n'y a aucune raison d'écrire le son T comme on le fait, ou la syllabe BA en sanskrit comme on l'a vu tout à l'heure. Bon. Alors, ou 3 comme ça. Donc, il y a quelque chose qui me choque un peu dans cette approche-là. À vouloir comprendre la révolution numérique en l'apprenant uniquement sur l'aspect de l'ouverture méthodologique et imaginale, hein, sans dire ça se produit où, comment, ça se produit où, comment, je veux dire, c'est un peu curieux, d'autant plus que l'usage du terme les technologies de l'intellect, ça vient directement de l'anthropologie. Hein. C'est Jacques Goudy qui haïssait Lévi-Strauss, hein, et c'était vraiment de la haine, hein, qui était... Si, mais c'était de la haine intellectuelle, enfin, et puis de toute façon, c'est très bien, voyons, enfin, c'est pas le monde des bisounours, quand même, le travail intellectuel. Hein. Et donc, il n'aimait pas du tout le structuralisme, et il voyait... Et dans sa description du structuralisme, il l'appauvrit considérablement. Enfin, je veux dire, le structuralisme, c'est plus malin que ce que Jacques Goudy en dit. Mais il rentre quand même dans le territoire de Lévi-Strauss, qui, lui, cherchait les structures de l'esprit humain. Bon. Et il les cherchait, c'est dans son grand article de 1948, qui est l'utilisation de la linguistique en anthropologie, il le dit tel quel, invitons à notre table l'esprit humain. Bon, alors, c'était ça le projet de Lévi-Strauss quand même. Et là-dessus, Jacques Goudy répond à Lévi-Strauss en disant, vos techniques de représenter les structures des mythes ou les structures de la parenté avec des plus et des moins dans plus ou moins des tableaux est une technique de l'écriture. Vous dépendez de l'écriture et vous, à la limite, vous ne pouvez pas décrire la pensée autre que dans la structure que dans les méthodes de l'écriture. Bon. Mais Jacques Goudy va trop loin, mais Lévi-Strauss aussi allait trop loin, parce que pour finir, lui-même, Lévi-Strauss, il avait mis la linguistique à la place des langues. ce qui est pour un linguiste comme moi curieux, pour le moins, hein, et il avait été au fond un peu trop loin. Il invitait l'esprit humain à la table des sciences humaines, au fond, c'était des projets qui ont été abandonnés par l'anthropologie, tout à fait abandonnés. Plus personne ne peut parler comme ça. Et plus personne n'y tient d'ailleurs, il ne peut le faire. Alors, on est donc dans une position où on va parler de la transformation de la pensée avec les méthodes de l'écriture ou du traitement de l'information, bon, et en dehors d'une description du monde social ou d'une description ou d'une évocation du monde social avec une notion ou un concept qui vient de l'anthropologie, étant la science du monde social. Donc on est dans une position que je trouve au fond intenable. Bon, alors, ça nous convient, nous avons fait ça toute notre vie, Eric et moi, d'accord. Mais bon, ça rend les choses difficiles. Alors, comment est-ce que je peux dire quelque chose là-dedans? Je vais prendre deux points de vue. Le premier, c'est que dans le processus de pensée, il y a un moment où intervient de l'oubli. On ramasse des documents, on lit, etc. Et puis tout d'un coup, il se produit quelque chose. Et ce jaillissement, qui peut ensuite s'étendre dans la durée, bien sûr, est un jaillissement qui est de l'ordre de l'oubli, de l'écart, de la coupure. On arrase les détails de ce qu'on a rassemblé, on abstrait. Je ne sais pas, Philippe, on en parlait hier, non? C'est pas avec toi? Excuse-moi, c'est pas avec toi. Peut-être qu'on généralise ou on abstrait, mais il y a quelque chose qui peut durer un milliseconde et qui est pourtant une forme d'oubli. Jean-Luc Nancy parle de nuit. Hein, il y a tout d'un coup quelque chose qui fait qu'on quitte l'environnement immédiat, sensoriel et on passe quelque part d'autre, et là dans ce phénomène, il se produit de la pensée, qu'on prolonge par la suite. Et dans ce moment de coupure, de rupture, d'écart, au fond, rien ne nous sert à rien. Nous sommes tout seuls. Dans cet écart-là, il n'y a plus de technologie de l'intellect. Il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus d'informatique, il n'y a plus de machine. Il y a un décalage. Et ce qui caractérise pour moi la pensée sous sa forme que tu souhaitais qu'on traite, à savoir une pensée un peu théorique ou abstraite, c'est un écart. C'est un oubli, d'une certaine façon. Hein? Il y a un retrait pour pouvoir penser. Je vous signale que c'est vieux dans la tradition occidentale quand même. Hein? Vous connaissez bien l'histoire de Thalès quand même, hein? Qui avait été suffisamment génial pour calculer la hauteur des pyramides, et puis qui tombait dans les trous, dans les puits, du côté d'Éphèse, hein, et de Milet. Et au fond, il fait absolument partie de notre conscience de qu'est-ce que penser, qu'est-ce qu'un mathématicien, qu'est-ce qu'un savant, etc. Il pense, et donc il est distrait, donc il tombe dans le puits. La distraction de Thalès, c'est pas le contraire de la pensée, c'est son ombre. Excuse-moi, Jean, hein, je veux dire, c'est son envers. Elle est constitutive de la pensée au même titre que l'ombre est constitutive de la lumière, d'une certaine façon. Il y a donc un retrait. Voilà. Il y a eu plein de façons d'analyser ce texte. Je crois que c'est Hegel qui a dit c'est une servante qui se moquait de Thalès, qui était tombée dans le puits. Je crois que c'est Hegel, mais je ne suis pas absolument sûr. Hegel disait pouf, c'était la servante qui était dans le puits. Je veux dire, elle est tellement dans l'ignorance qu'elle ne se rend pas compte que le puits c'est elle-même, etc. Donc, j'insiste juste sur l'idée qu'il y a un retrait à un moment dans le processus de pensée, et que ce retrait, nous l'avons en quelque sorte mythologisé depuis longtemps. Thalès, c'est moins 550. Hein? Ça fait 26 siècles environ. Donc, là, par la suite, la pensée nécessite évidemment d'être concrétisée, et quand elle est, et quand elle doit être concrétisée, en effet, interviennent là tout ce que tu veux comme technique, comme technologie, etc. Est-ce que ce sont des technologies de l'intellect ? J'avoue que j'en doute. Ce sont beaucoup plus des technologies des signes. Bon, alors, je voudrais prendre juste un autre point de vue. C'est le... c'est que avec l'écriture informatique, dont je ne connais pour finir que les pratiques les plus basses, les traitements de texte, les mails, les machins, et les tableaux Excel où je me trouve déjà héroïque, dans le processus même d'écriture, si on compare écrire avec un clavier et une machine et écrire à la main, il y a apparemment un processus de désubjectivation. Parce que Dans le truc extraordinaire de l'écriture, c'est qu'elle rend le langage visible, et si vous écrivez à la main, cette magie-là, elle se fait avec votre propre corps. Et avec l'écriture informatique, je ne sais plus où est le visible et l'invisible. Le clavier est visible, et il y a ce qui se passe dans la boîte qui est totalement noire pour moi, et un retour au visible avec... disons ce qui apparaît sur un périphérique comme l'écran, mais ça pourrait être l'imprimante ou Dieu sait quoi. Qu'est-ce qui se passe entre visible et invisible avec l'écriture informatique? Moi, j'ai renoncé depuis des années à y comprendre quelque chose, mais c'est un vrai problème. Et dans la mesure où on ne passe plus, ça ne passe plus par le corps humain, qui est l'acte d'écrire, vraiment le geste, qui est l'acte où s'est déployée la subjectivité alphabétique, si je puis dire, la subjectivité de l'écriture des langues, et apparemment également de l'écriture mathématique, eh bien là, quelque chose a changé. Je mets ce phénomène en relation avec l'évolution des psychoses en psychiatrie dans les 15 dernières années. Ça ne vous intéresse probablement pas, moi oui. Et la paranoïa a pratiquement disparu. Tandis que la schizophrénie augmente de façon galopante. Eh bien, je pense que le monde dans lequel on est absorbe et produit quelque chose qui est comme une paranoïa normale, non psychotique, même pas névrotique, sociale. C'est-à-dire que le monde des signes a tellement grandi qu'il convoque une nécessaire application à déchiffrer en permanence. Vous savez ce que fait un paranoïaque? Un paranoïaque voit des signes absolument partout et les interprète de façon générale comme négatifs vis-à-vis de lui. Mais sa première activité, c'est de voir des signes partout. Tu portes une écharpe orange, et je vais te dire pourquoi tu portes une écharpe orange. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est typiquement le mode de pensée d'un paranoïaque. Il n'y a plus de psychose paranoïde depuis une quinzaine d'années. Alors, peut-être que c'est parce que les psychiatres y ont renoncé, mais peut-être aussi que c'est un phénomène de transformation radicale de la subjectivité. Et la transformation de la subjectivité, on la voit dans la maladie mentale. C'est une vieille histoire, ça. Dans l'histoire de la pensée. Et il me semble que entre la désubjectivation, d'une part, d'autre part, la nécessité qu'il y a à interpréter tout le temps, à être noyé dans l'information, à être pris sans cesse dans l'information, et la compétence à l'herméneutique, au déchiffrement, devient une norme. C'est normal de faire ça. Tandis que le mouvement de la schizophrénie parmi les signes, c'est le retrait. Le schizophrène est quelqu'un qui, tout d'un coup, se met à l'écart. Le schizophrène dit, le sens des mots, j'y crois pas. Il se met à l'écart. Il parle plus, il se met à l'écart. Évidemment, dans le monde où nous sommes en multiplication de flux d'informations, ceci indique pour moi une transformation de la subjectivité, c'est-à-dire que la convocation permanente à la présence au monde par la multiplication de l'information fait que la maladie mentale se dirige vers le retrait. Et se prend cette forme-là. Et bon, c'est plutôt, je pense, dans c'est plutôt ce genre de choses qui m'intéresse quand on parle de la révolution informatique. C'est pas seulement la pensée dans la pensée des chercheurs en sciences humaines. Bon, c'est plutôt la pensée comme phénomène général qui est commun à tous les hommes et que les transformations extrêmes des signes agissent sur la construction des psychismes. C'est pas très gai. Bon, c'était pas trop long.